Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Sandrine Mercier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Priorité Santé, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. La drépanocytose, on n'en parle jamais assez, c'est la première maladie génétique au monde. On estime à plus de 50 millions le nombre de personnes porteuses du gène causant la drépanocytose. Et pourtant, elle est assez mal connue. Et ceux qui souffrent d'ailleurs de cette maladie du sang racontent les crises de douleurs intenses, une anémie grave et des risques d'infection. Il faut savoir qu'une détection précoce permet de réduire considérablement la mortalité infantile. Car si on ne sait pas guérir cette maladie, on sait tout de même en limiter les crises et les complications. C'est l'espoir. Donc comment se manifeste cette maladie? Quel est son mode de transmission? Et où en sommes-nous des traitements et du suivi psychologique aussi qui est très important? Et nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui le docteur Assa Niakate. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes médecin référent drépanocytose et vaccination au sein du bureau de la prévention et des dépistages de la ville de Paris. Et donc vous intervenez dans l'émission de ce jour en qualité de médecin responsable du centre d'information et de dépistage de la drépanocytose, toujours à Paris. Alors la dernière fois que vous étiez venu, il y avait un centre dans le 13e à Paris et victoire, il y a un deuxième centre maintenant, racontez-nous.
Tout à fait, hein, effectivement. Historiquement, le centre, l'activité a démarré dans le 13e arrondissement et depuis maintenant une petite année, on a la chance d'avoir une consultation délocalisée dans le 18e et ça a été le fruit d'un énorme travail de réflexion avec justement les professionnels de santé de l'association Goutte d'Or basée au sein du 18e. Donc ça répond vraiment à une demande du bassin de vie du 18e arrondissement de Paris.
Et ce centre, c'est vraiment une arme pour vaincre l'indifférence qui entoure cette maladie.
Tout à fait, hein. Effectivement, nous sommes vraiment dans la prévention, dans l'information et dans un second temps proposer à ce moment-là le dépistage. L'idée en fait, c'est de multiplier en fait les possibilités pour les personnes qui le souhaitent de pouvoir venir se faire dépister gratuitement et connaître leur statut vis-à-vis de la drépanocytose.
Et c'est important ce dépistage, hein, vous allez nous le dire, parce que cette maladie en fait, elle est tellement répandu et en même temps elle est restée ignorée si longtemps. Pourquoi, docteur Assa Niakate?
Alors moi j'ai pas forcément la réponse à ça. En tout cas une chose est sûre, c'est que peut-être qu'il y a des problèmes de communication autour de la maladie. Peut-être qu'effectivement il faudrait que les professionnels de santé, les associations de lutte contre la drépanocytose continuent à communiquer autour de la maladie, autour des bienfaits du dépistage, et que ça permettrait de la rendre plus visible probablement.
C'est vrai qu'on parle souvent d'une maladie avec un mal invisible et sournois. Vous allez nous décrypter un peu cette maladie tout au long de l'émission. Et comment vous, amis auditeurs, vous la vivez au quotidien si vous êtes atteint? On attend vos témoignages, vos questions sur la drépanocytose au 33 1 84 22 75 75. Et sur notre page Facebook, nous vous attendons très nombreux. Vous êtes déjà très nombreux à vouloir poser votre question. Le docteur Assa Niakate est avec nous. Et à la fin de l'émission, ce sera le professeur Olivier Bastien qui va nous parler de greffe d'organes, puisqu'il est directeur du prélèvement et de la greffe d'organes à l'Agence de la biomédecine. Savez-vous qu'en France, maintenant, tout le monde est un donneur potentiel à sa mort, sauf si on refuse avant et si c'est écrit noir sur blanc dans un registre.
Priorité santé sur RFI.
La vie d'une drépano est difficile, oui. Tous les jours, c'est un combat pour moi.
La drépanocytose, c'est une maladie de la douleur, plus ou moins intense, mais en tout cas, c'est la principale plainte des patients.
La drépanocytose, c'est une maladie rare, mais c'est une maladie négligée, quelque peu oubliée, dans les pays où, justement, elle pose un grand problème de santé publique.
À travers les âges, elle se partage tel un héritage. J'entends pas ou quoi ? Malgré les avancées de la science, elle perpétue ses ravages dans un profond silence. À travers les âges, elle se partage tel un héritage.
Malgré les avancées de la science, elle perpétue ses ravages dans un profond silence.
Et la drépanocytose, ça se chante aussi. Là, c'était le collectif Tous en Chœur contre la drépanocytose. Il y avait entre autres Princesse Erika, Les Nègres Marrons et Claudie Ciard, notre amie de couleur tropicale. Alors Assa Nakiaté, médecin responsable du centre d'information et de dépistage de la drépanocytose. On a entendu aussi un extrait d'un film qui a été diffusé la semaine dernière. C'était sur France O et ça s'appelait la douleur en héritage. Je ne sais pas si vous avez pu voir ce documentaire.
Tout à fait, ce documentaire est très, très, très bien construit. Et d'ailleurs, nous avions été également sollicités pour participer à la réalisation de ce film. Et je crois qu'effectivement, c'est important que la visibilité se fasse aussi par les médias. Et c'est comme ça, peut-être, qu'on arrivera un peu à rendre plus visible la maladie. Mais effectivement, c'est très touchant avec des témoignages vraiment... vraiment poignant.
Oui, on en a aussi des témoignages là tout au long de l'émission. Vous êtes très nombreux à vouloir participer. C'est vrai que cette maladie a été longtemps ignorée. On appelait la grande muette parce qu'il faut dire quand même qu'en dehors des crises, elle ne se voit pas.
Effectivement, c'est ça la grande difficulté entre guillemets, c'est qu'on est dans le cadre d'une maladie chronique qui peut être diagnostiquée qui est très précocement, mais finalement les symptômes sont assez peu visibles. C'est-à-dire que quand quelqu'un a mal, finalement on va le voir de par ses attitudes, mais une fois que la crise est passée, entre les crises, l'enfant est en parfaite santé, il va très bien, et dans une cour de récréation, on ne peut pas distinguer un enfant atteint de drépanocytose d'un autre enfant. Donc effectivement, c'est ce qui rend peut-être les choses un peu difficiles à comprendre pour quelqu'un de l'extérieur.
Alors avant de prendre le premier auditeur, qui est une femme d'ailleurs, juste qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui se passe dans le corps avec cette maladie.
Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se passe au niveau des globules rouges. Moi, ce que j'aime bien expliquer aux parents, quand je les reçois, je leur dis, dans le sang, vous avez des milliards et des milliards de petites cellules qu'on appelle les globules rouges, et leur fonction, c'est de transporter l'oxygène. Et vous allez imaginer que les petits globules rouges, en fait, c'est comme des petits ballons de baudruche, et... au lieu de les remplir avec de l'air, on va les remplir avec de l'eau, on va les remplir avec du sable. Ça, c'est le contenant. Et ce qui va être intéressant à comprendre dans la drépanocytose, c'est qu'il y a une altération de l'hémoglobine. C'est-à-dire que c'est le gène de l'hémoglobine qui est modifié. Et les personnes, au lieu de fabriquer de l'hémoglobine A, qui est l'hémoglobine la plus répandue, le code va changer et ils vont fabriquer de l'hémoglobine S. Et c'est le S qui va porter tous les symptômes de la maladie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont être les crises douloureuses, l'anémie, la sensibilité aux infections, etc. Et du coup, ce qui se passe chez les patients qui sont malades, c'est que au lieu d'avoir hérité de deux copies du gène A, qui est le gène habituel, ils vont avoir hérité de leurs parents de deux copies du gène S, qui est le gène malade. Et en situation de stress, moi je l'appelle l'hémoglobine du stress, c'est une hémoglobine qui est très sensible. Dès qu'il va y avoir un changement de température, une déshydratation, un manque d'oxygène, ce qui va se passer, c'est que les molécules de S vont s'agglutiner, vont s'accrocher les unes aux autres. Nous, on dit que ça va se polymériser. Et à ce moment-là, votre contenu de votre petit ballon qui était liquide au début, ça va se transformer en gel. Et votre globule rouge qui était rond comme un ballon, il va durcir et il va changer de forme. Il va prendre une forme de petit croissant, de petite banane. Et il va avoir beaucoup plus de mal à diffuser à travers les vaisseaux sanguins.
Du coup, le sang devient mal oxygéné.
En fait, effectivement, ce qui va se passer, c'est que l'oxygène ne va pas arriver au niveau des tissus. Et du coup, quand vous avez un tissu qui manque d'oxygène, il va être un petit peu en souffrance et l'inflammation va se manifester par des crises douloureuses.
Alors, merci pour cette explication. C'est vrai que c'est important quand même de comprendre ce qui se passe dans le corps. Mmh. Et puis après, il y a tous les symptômes. Alors, il y a Khadija Tou qui nous appelle de Conakry et qui, effectivement, s'interroge sur des symptômes. Bonjour, Khadija Tou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Priorité Santé. On vous écoute.
Oui, bonjour, docteur.
Bonjour, madame.
Oui, moi, je suis drépanocytaire AS. J'ai des maux de tête terribles depuis des années, depuis mon enfance.
Oui.
C'est vers la fin qu'on m'a diagnostiqué que j'étais drépanocytaire. Maintenant, les médecins m'ont dit que c'est la cause de mes maux de tête. Jusqu'à présent, j'ai 39. Jusqu'à présent, j'ai des crises terribles.
Et vous avez...
Donc, si je prends Avant, je prenais du sédatif. J'ai suivi un traitement en psychiatrie pour arrêter parce que j'étais devenue... Je dépendais de ça. Quand je prends, ça se calme, ma tête se calme. Tant que je ne prends pas, ça ne va pas, je ne peux rien faire. Maintenant, j'ai dû suivre un traitement en psychiatrie. J'ai arrêté ces médicaments, mais actuellement, sauf quand je prends du doliprane, ça se calme. J'arrive à me lever, travailler un peu.
Et ça c'est tous les jours?
C'est presque ça. Ça ne peut pas faire un mois tant que ma tête ne me fasse mal depuis que j'ai suivi le traitement en psychiatrie. Avant, c'était chaque jour.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, en fait, vos douleurs se manifestent uniquement sous forme de maux de tête, en fait.
Oui, oui. Des fois, quand ça fait des années, bon, mais même, simple, ça me fait mal. J'ai les articulations qui me font mal. Comme actuellement, il pleut.
Oui.
Il y a les pieds, tout ça, ça me fait mal. Mais ma tête, là, ça ne va pas.
D'accord. Alors, très classiquement, après je ne vais pas rentrer dans le détail de votre cas particulier, on sait que les porteurs sains AS, en général, ne sont pas symptomatiques. C'est-à-dire que quand on est AS, le A va dominer sur le S. Quand on fait des études de l'hémoglobine, en général, on a aux alentours de 60% d'hémoglobine A contre à peu près 40% d'hémoglobine S. Donc, ce qui fait que l'hémoglobine S ne peut pas s'exprimer en situation normale. Donc, on considère que les porteurs sains AS, quand ils ont des symptômes, quand ils ont des douleurs ou autres, il faut chercher une autre cause à leur douleur. Ça ne doit pas être expliqué par le fait qu'ils soient porteurs d'un trait drépanocytaire. Donc, après, peut-être qu'il faudrait faire le point avec votre médecin habituel et faire un bilan de migraine, peut-être, puisque vous dites que c'est cyclique, que ça revient tous les mois. Bon, ensuite, après, c'est vraiment des choses à revoir plus précisément avec votre médecin habituel. Mais classiquement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est porteur sain, c'est la même chose que quand on est AA. On ne doit pas être symptomatique comme si on avait une drépanocytose homozygote SS ou SC ou autre drépanocytose.
Donc vous prononcez le mot de porteur sain, c'est ce que ça veut dire quand on est AS, c'est-à-dire on est porteur mais on ne déclenche pas la maladie.
Tout à fait, parce que ce qui se passe c'est qu'en fait un enfant en héritage, il a la moitié des gènes de son papa et la moitié des gènes de sa maman. Donc il peut arriver que par exemple un parent transmette un gène S à son enfant et l'autre parent transmette un gène A. Donc à ce moment-là, l'enfant va être AS, il va être porteur sain. Il n'est pas malade parce qu'il y a encore le gène A qui permet en fait d'assurer la fonction normale de l'hémoglobine et donc il n'est pas symptomatique en situation normale. Donc c'est difficile d'expliquer les douleurs chroniques de madame juste par le fait qu'elle soit uniquement porteuse saine d'un trait drépanocytaire.
Il faut aller effectivement chercher aussi d'un autre
tout à fait
sur un autre plan. Alors on va continuer aussi avec Aimée, une autre femme qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Aimée.
Bonjour docteur, bonjour madame.
Merci de nous appeler à Priorité Santé au 33 1 84 22 75 75. Vous avez la parole.
Oui, moi je suis de panogitaire, la forme SPC. Et donc j'ai eu une opération chirurgicale au niveau des yeux. On me disait que c'est dû à la panogitose. Et après le retrait du sang dans la rétine, on a constaté que les nerfs sont devenus faibles. Et tout ça, là, c'est dû à la maladie. Donc, j'aimerais savoir pourquoi la drépanocytose attaque aussi les yeux des gens. Et quelle solution je peux trouver pour les nerfs qui sont faibles. Parce qu'actuellement, je ne vois pas pour le moment.
Alors la ligne n'est pas très bonne, Aimée, mais on a pu effectivement entendre votre témoignage. Vous avez subi une opération des yeux et actuellement vous ne voyez pas. Alors est-ce que la drépanocytose impacte aussi sur les yeux, docteur Hassan Akiaté?
Alors effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les syndromes drépanocytaires majeurs, c'est tout un ensemble de maladies. Vous avez donc classiquement l'exemple qu'on cite toujours, c'est la forme homozygote SS, mais il y a d'autres formes de drépanocytose qu'on appelle les formes hétérozygotes composites, c'est-à-dire qu'on a S associé à un autre gène. Dans le cas de madame, en fait, elle a le S associé au gène C. Le C, on le retrouve beaucoup sur le plateau voltaïque, donc tout ce qui va être Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali. On retrouve énormément de tressés également. Et quand le S est associé au C, on est dans le cadre d'un syndrome drépanocytaire majeur. La particularité de ces formes-là, c'est que, contrairement aux formes homozygotes SS, ils vont pas être si anémiques que ça. Ils ont en général un taux d'hémoglobine qui est pratiquement normal. Les SC, les S-bêta plus aussi rentrent dans cette catégorie-là. Et du coup, le fait d'avoir un taux d'hémoglobine quasi normal va faire qu'on va avoir un sang qui va avoir des propriétés où il va être un peu plus visqueux. Il y a une hyperviscosité. Et du coup, les complications des personnes SC, ça va être des complications en rapport avec l'hyperviscosité. Et donc, les principales atteintes qu'on va retrouver dans ces formes-là de drépanocytose, c'est effectivement les atteintes au niveau ophtalmologique, pardon, avec des rétinopathies, comme chez les diabétiques, en fait. Donc, on a des rétinopathies drépanocytaires qui peuvent parfois, effectivement, conduire à des baisses de l'acuité visuelle, voire parfois à des cécités, quand c'est pas correctement traité et suivi. Et puis aussi, tout ce qui va être, par exemple, le problème au niveau de l'oreille interne, donc des vertiges, des surdités, tout ça, c'est lié à l'hyperviscosité, ou encore des ostéonécroses au niveau de certains os, au niveau de la tête fémorale, au niveau des têtes humérales. Voilà, ça, c'est les principales complications spécifiques aux formes SC et puis S-bêta plus également.
Et d'autres formes, peut-être, de comment se manifeste la maladie. Tout à l'heure, on entendait un peu la dame qui se disait, par moment, elle avait les pieds enflés. Donc, il y a la douleur, ça c'est aux os, hein, vous disiez, aux articulations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore?
Alors après, quand on arrive à l'âge adulte, on va rentrer dans les maladies chroniques. Et là, à ce moment-là, c'est vrai que moi, j'aime bien faire la comparaison, par exemple, avec le diabète. Donc, on peut avoir des atteintes au niveau rénal, on peut avoir des atteintes au niveau hépatique, on peut avoir des atteintes au niveau ophtalmologique. En fait, partout où on a du sang qui va circuler, on peut avoir ces atteintes chroniques qui vont s'installer à l'âge adulte. Chez les enfants, des fois aussi, on a des atteintes, ou chez les adultes, hein, on peut aussi avoir des atteintes vasculaires au niveau du cerveau, des atteintes cérébrales également. Donc après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie des globules rouges, mais c'est aussi une maladie des vaisseaux sanguins. Donc tout ça associé fait qu'on peut avoir un panel de complications si la maladie n'a pas été suffisamment prise en charge avant.
Alors on va écouter maintenant Lolita qui nous appelle de Yaoundé et qui a envie de nous parler de son fils. Bonjour Lolita.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous sur Priorité Santé. On vous écoute.
Oui, bonjour docteur. Bonjour. Mon fils a 4 ans. Il a été diagnostiqué drépanocytaire à l'âge de 11 mois. Bon, j'ai été hospitalisée 2 fois de suite aux infections urinaires et 1 fois de suite aux brûlures graves de second degré. Mes questions sont les suivantes. Quel est le régime alimentaire que peut suivre des drépanocytaires? On m'a dit que au fur et à mesure l'enfant grandit, les douleurs sont croissantes. Ma troisième question est de savoir, je suis mariée à son papa et nous aimerons avoir d'autres enfants. Comment faire pour éviter d'avoir d'autres enfants malades?
Merci beaucoup Lolita, c'est vrai que ça suscite beaucoup de questions, donc là elle a beaucoup de questions à Lolita avec son enfant de 4 ans aujourd'hui. D'abord, est-ce que les douleurs vont s'accentuer avec l'âge?
C'est très compliqué de répondre à cette question parce que finalement, il y a autant de drépanocytose que de patients atteints de drépanocytose finalement. Ça veut dire que chaque patient va avoir sa propre évolution dans sa maladie. Il peut arriver, par exemple, quand on suit des fratries où il y a 2 ou 3 frères et sœurs qui sont atteints de drépanocytose, il peut arriver qu'il y en ait un qui soit très très symptomatique, c'est-à-dire qu'on soit obligé à une période donnée de l'hospitaliser parce qu'il a vraiment des douleurs très importantes tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Et à côté de ça, son frère ou sa sœur qui a hérité pourtant des mêmes gènes, on va le voir juste en consultation pour renouveler son traitement. Donc en fait, il y a une variation de l'expression de la maladie d'une personne à une autre, mais aussi pour une même personne donnée. C'est-à-dire que vous avez des patients qui, pendant toute une période, vont être très peu symptomatique. Et puis, parce que tout à coup, il y a un stress particulier. Ça me fait penser à une patiente que je suivais il y a quelque temps. En fait, la première fois où elle a vraiment eu des douleurs liées à la drépanocytose, c'est quand elle a commencé à préparer son brevet des collèges. Avant ça, elle n'a jamais eu vraiment de douleurs invalidantes au point de devoir être hospitalisée. Donc en fait, il y a une variation d'un patient à un autre, et pour un même patient, en fonction de la période, en fonction du stress dans lequel il va être, eh ben, il y a des périodes où il va être très symptomatique et des périodes où ça va être plus calme. Mais c'est pas forcément corrélé à l'âge.
Donc chacun fait vraiment l'apprentissage de sa maladie d'une manière très très individuelle. Il n'y a pas de cas général.
Exactement. Alors il y a des grosses généralités, mais en fait finalement chacun évolue différemment, et c'est pour ça que c'est très important de mettre en avant tout ce qui va être éducation thérapeutique, éducation à la santé, pour que justement le patient et son entourage se saisissent de la maladie et soient plus acteurs dans sa prise en charge.
Alors Lolita aussi voulait savoir s'il y avait un régime alimentaire à suivre pour son enfant.
Alors pour la drépanocytose à proprement parler, il n'y a pas de régime spécifique. Alors c'est du fait de l'anémie chronique, on supplémente les enfants, enfin les patients, parce que même les adultes sont supplémentés en acide folique, en folate, pour les aider à régénérer des nouveaux globules rouges. Mais il n'y a pas de régime spécifique comme il peut y en avoir par exemple dans le déficit en G6PD, où on va par exemple interdire de manger des fèves dans l'alimentation ou des choses comme ça. C'est deux choses complètement différentes. Normalement, il n'y a pas de choses particulières. Faut pas qu'ils soient carencés, tout simplement. Faut leur donner un petit peu de tout. Faut une alimentation suffisamment variée pour qu'ils aient un peu de tout dans l'alimentation.
Et donc la dernière question de Lolita, c'était, donc pour l'instant c'est son premier enfant, et avec son mari qui est aussi AS, donc ils sont tous les deux porteurs sains, est-ce qu'ils peuvent avoir d'autres enfants, et est-ce qu'ils seront malades ou pas ?
Alors comme je le disais au début de l'émission, la transmission de la maladie, en fait c'est chaque parent transmet son gène malade à l'enfant. Et donc du coup quand on a un papa AS, une maman AS, si les parents donnent chacun leur gène A, l'enfant va être AA. Si papa donne son gène S, maman donne son gène A, l'enfant va être AS. Si papa donne son gène A, maman donne son gène S, l'enfant va être aussi AS. Donc ça fait trois cas de figure où l'enfant n'est pas malade. Soit il est AA, soit il est AS. Et puis des fois, il peut arriver que les deux parents donnent leur gène S. Et là, on a un risque sur quatre à chaque grossesse d'avoir un bébé atteint de la maladie. Alors en France, quand on a des couples à risque identifiés, ce qu'on fait en général, c'est qu'on les oriente vers les équipes de conseil génétique, parce qu'à ce moment-là, quand une grossesse est démarrée, il y a la possibilité de recourir au diagnostic anténatal. Ensuite, moi, au Cameroun, je ne connais pas les modalités sur place en termes d'accès au diagnostic anténatal.
Merci beaucoup, docteur Assa Niakate, pour toutes ces réponses. Lolita, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Vous êtes satisfaite des réponses?
Non, je suis satisfaite, mais je vais quand même aussi essayer de chercher pour voir le diagnostic, comment faire pour éviter cela. Donc, je voulais seulement savoir si c'est possible déjà qu'il y ait un examen pour ça, pour prévenir lors d'une grossesse, pour prévenir de ne pas avoir un enfant malade.
Alors en fait, du coup, c'est vraiment au moment où la grossesse est enclenchée, hein, on fait ça en général au premier trimestre de la grossesse, et c'est soit des biopsies de trophoblastes, soit, quand c'est un peu plus tardif, des amniocentèses. Et là, ce qui est à l'étude, c'est de faire peut-être l'étude du sang fœtal par simple prise de sang. Mais tout ça, c'est pas forcément encore complètement au point. Et comme je vous le dis encore, je connais pas le plateau technique au Cameroun, donc je veux pas trop me prononcer.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Lolita. On va continuer après une chanson avec vos messages au 33 1 84 22 75 75. Nous serons heureux de vous avoir à l'antenne. On se retrouve après. Là, c'est Synapson qui chante Souba.
Bir mi mane nyafela Gis nga yow lula war moy nyafela Nanga jo si si zangel ben Bala mi wesu nga di ko rechu
mane jog ci yow dal mane jog ci ay way mane jog ci yow dal balaw yi wesso
Rejoignez dans Priorité Santé, bienvenue, bienvenue aujourd'hui. Drépanocytose, la première maladie génétique mondiale et beaucoup d'appels. Vous êtes nombreux à être concernés en Afrique, doit-on dire ou non sa pathologie? Qu'est-ce qui déclenche les crises? Comment envisager une famille avec la possible transmission de la maladie aux enfants? Vous l'avez bien expliqué, docteur Hassan Yakiate. Une chance sur quatre. Et où en sommes-nous aussi du dépistage automatique avec également les traitements? Continuez de nous appeler au 33 1 84 22 75 75 et échanger sur notre page Facebook. Nous sommes avec le docteur Hassan Yakiate, médecin responsable du centre d'information et de dépistage de la drépanocytose à Paris. Et nous avons au téléphone tout de suite le docteur Léon Tshilolo. Bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous êtes pédiatre et hématologue à Kinshasa, vous travaillez au centre hospitalier mère-enfant Moncolé à Kinshasa et vous êtes directeur également du centre de formation et on vous a vu aussi dans le film, dans le documentaire dont on parlait tout à l'heure, La douleur en héritage, hein, qui a été diffusé la semaine dernière sur France O. Vous avez vu
oui,
le film
madame.
Oui, vous avez vu le film
Non, je ne l'ai pas encore vu à Kinshasa, mais j'ai eu plusieurs échos justement concernant ce film qui décrit certainement le vécu quotidien et ordinaire de cette maladie en Afrique centrale et en particulier en RDC, où elle concerne 25% de porteurs et près de 1,5 à 2% de malades qui en sont atteints. Donc vous parliez de la... Du dépistage, justement, c'est un volet que nous réalisons dans notre pays depuis une dizaine d'années et dans plusieurs centres de santé, dans plusieurs provinces, et cela grâce, bien sûr, au soutien de plusieurs partenaires.
Alors, qu'est-ce qui fait que c'est fondamental, ce dépistage?
Il faut dépister pour détecter très tôt cette maladie parce que on peut améliorer le pronostic et le suivi de ces malades lorsque le patient est détecté dans la période néonatale ou du moins dans les premières années de vie parce que la mortalité est très élevée, en particulier en Afrique. On va dire que 3 enfants sur 4 peuvent mourir sans que le diagnostic ne soit posé. Et cela avant l'âge de 5 ans. D'où l'intérêt d'un dépistage précoce, parce qu'il y a des mesures très simples qui sont accessibles dans la majorité des pays africains. C'est d'abord des mesures préventives contre les infections, parce que la drépanocytose, c'est une maladie qui portent à une hypersusceptibilité aux infections. Et donc, ces enfants doivent être vaccinés. Et on fait aussi ce qu'on appelle une prophylaxie avec une molécule très simple, c'est la pénicilline. Ces deux mesures couplées à l'éducation des parents, en particulier de la maman et du papa, font qu'on puisse réduire facilement la mortalité de ces enfants.
Donc ce que vous dites effectivement, c'est qu'avec un dépistage le plus tôt possible, il y a une grande majorité de morts infantiles en fait qui peut être évitée.
C'est vrai que faire un dépistage, ce n'est pas accessible à tout le monde. Le grand problème pour nos pays africains, c'est que les dépistages, ou moins, on va dire, l'accès aux techniques de dépistage sont pour la plupart limités aux grandes villes, aux métropoles, et en milieu rural, il n'y a pratiquement rien. Heureusement que maintenant, grâce à la recherche, il existe des tests rapides, semblables à ceux qu'on utilise pour le paludisme, qui sont tout à fait accessibles pour les milieux ruraux, et il faudrait donc introduire ces programmes de dépistage précoce dans les milieux ruraux, et cela pour répondre entre autres aux recommandations de l'OMS.
Donc pour vous, ça c'est vraiment une priorité, c'est ce que vous demandez aux autorités.
Oui, c'est une priorité. On l'a demandé, on a répété d'ailleurs cela lors du récent congrès du REDAC qui vient d'avoir lieu à Madagascar, un congrès qui a été couplé avec le deuxième colloque international, la drépanocytose à Madagascar et dans l'océan Indien, où devant les autorités du pays et devant les responsables de l'OMS, on a encore une fois évoqué la stratégie qui a été présentée à tous les pays de la région Afrique par l'OMS. Et dans cette stratégie, une des étapes primordiales, c'est la sensibilisation, mais couplée à une campagne de dépistage précoce.
Mmh. Alors justement, vous revenez de ce congrès international sur la drépanocytose qui a eu lieu à Madagascar. Est-ce qu'un des buts, par exemple, de cette rencontre, c'est aussi de dire à la communauté internationale, de convaincre peut-être les Nations Unies et l'OMS qu'il faudrait placer la drépanocytose au rang de priorité, au même niveau que le sida, le palu ou la tuberculose, par exemple?
Ben, vous avez tout à fait raison. Écoutez, moi j'ai l'habitude de plaider pour la drépanocytose en disant c'est pas une boutade, c'est une réalité, que la drépanocytose, c'est l'enfant qui est né de la maman qu'on appelle malaria ou paludisme, mais on donne des moyens financiers importants à la maman et on néglige quelque peu cet enfant qui est la drépanocytose, qui se retrouve donc comme un enfant orphelin, une maladie quelque peu oubliée et qui n'a pas de gros moyens. Et il faudrait justement, à travers ce plaidoyer, à travers les congrès, main dans la main avec les scientifiques, les associations, les fondations qui aident et qui contribuent vraiment à prendre en charge cette maladie, il faudrait insister pour que la drépanocytose puisse aussi se retrouver au niveau du cancer des grandes maladies prioritaires de santé publique.
Il faut peut-être dire aussi pour terminer, docteur Léon Chilolo, que ça ne concerne pas seulement les Africains.
Ah non, pas du tout. La drépanocytose, c'est une maladie, on va dire, mondiale. C'est une maladie de la globalisation. La drépanocytose n'a pas de frontières. Elle est bien présente aux USA, en Asie. Sachez que le premier pays où il y a le plus grand nombre de drépanocytaires, ce n'est pas en Afrique, c'est l'Inde. Après l'Inde, c'est le Nigeria. En troisième position, c'est la RDC. Et en dehors de cela, nous avons des drépanocytaires qui ont des yeux bleus, qui sont blonds et qui sont en Sicile, qui sont dans d'autres pays européens. La drépanocytose, aujourd'hui, finalement, c'est une maladie mondiale. Et c'est pour cela qu'elle appelle à une solidarité internationale et mondiale.
Merci beaucoup pour avoir été avec nous en direct. Léon Chilolo, vous êtes pédiatre et hématologue à Kinshasa, au centre hospitalier Mère-Enfant Mankolé à Kinshasa. Et j'espère que vous allez pouvoir voir le film dans lequel vous apparaissez, dans La douleur en héritage, très vite. Merci pour votre témoignage.
Merci beaucoup.
Priorité santé sur RFI.
Alors on continue avec la drépanocytose et les questions des auditeurs qui arrivent très très nombreuses pour vous, docteur Hassan Yakate. Nous prenons tout de suite Youssoufa qui nous appelle de Dakar. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Vous êtes sur l'antenne d'RFI, on vous écoute.
Ok, moi je demande, moi je suis drépanocytaire comme ma femme. On a une fille, elle a 10 mois jusqu'à présent. Mais je voudrais savoir quelles sont les chances d'avoir un enfant SS et aussi est-ce qu'elle a de la condition se soigne. Parce que moi, j'entends beaucoup de rumeurs, on dit qu'elle a de la condition se soigne, mais moi, je ne crois pas à ça. Je veux répondre à ma question.
Oui, alors c'est vrai. Est-ce qu'on peut en guérir dans ce sens-là? Et l'autre question, donc effectivement sur la transmission, est-ce que vous avez déjà fait un dépistage, votre fille a 10 mois aujourd'hui?
Non, on n'a pas encore fait. Mais je sais que l'enfant est atteint, mais je ne sais pas encore de quel profil, SS ou AS, je ne sais pas encore.
Donc bonjour Monsieur Youssoufa. En fait, ce qui est important, c'est important d'être d'accord sur les définitions. Quand vous dites que vous êtes drépanocytaire, en fait, vous êtes porteur sain. On est bien d'accord.
Oui, je suis d'accord. Oui.
Voilà. Donc vous êtes AS et Madame aussi serait AS.
Ah, oui. On a une fille. Elle a 10 mois.
Voilà. Donc dans ce contexte, en fait, on considère que le risque pour que l'enfant soit malade, ça serait un risque sur 4, 25% de risque. Si vous êtes tous les deux AS.
Okay.
Si par contre vous me dites ma femme et moi nous sommes drépanocytaires, ce qui voudrait dire que vous êtes SS tous les deux, à ce moment-là, dans 100% des cas, vos enfants seraient SS également, puisque non, vous ne pourriez transmettre que du S.
Ma femme est AS, moi aussi je suis AS.
D'accord, donc vous êtes bien porteurs sains tous les deux. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, le risque quand on a deux porteurs sains, le risque d'avoir un enfant malade, c'est un risque sur quatre à chaque nouvelle grossesse.
Ok.
Donc là, vous conseillez quand même le dépistage pour ce jeune enfant?
Effectivement.
Non, je vais le faire. Je vais le faire, Inch'Allah. Je vais le faire.
Vous voilà. Allez le faire.
Donc ça, c'est effectivement une bonne chose de pouvoir le faire. Et vous avez la chance à Dakar d'avoir un centre de référence pour la drépanocytose au centre hospitalier d'enfants Albert Royer. Il y a l'équipe de pédiatrie générale qui est très compétente sur la prise en charge de la drépanocytose. Votre enfant n'est pas malade, ça peut être intéressant à diffuser pour les membres de votre entourage notamment.
Mais qu'est-ce qu'il faut dire par exemple à Youssoufa? Bon, il nous dit je vais le faire. Qu'est-ce qu'il faut dire pour inciter les familles au dépistage?
Ben moi je crois que c'est important effectivement que les gens soient sensibilisés au dépistage. C'est toujours mieux de le savoir avant plutôt que de découvrir au moment où vous avez votre bébé qui est né que vous étiez tous les deux porteurs sains. Je trouve qu'en fait c'est plus important que les gens soient informés de leur statut de porteur sain en préconceptionnel avant même de lancer leur projet de bébé, parce que à ce moment-là, le projet de bébé, il est fait en ayant une notion du risque de transmission, plutôt que de découvrir à la maternité, comme ça arrive souvent en France, par exemple, la drépanocytose est dépistée à la naissance, ça fait partie des maladies du dépistage néonatal, hein, avec le petit test de Buvard qu'on fait, le sang qu'on prélève au talon du bébé à la maternité. Donc dans ce panel de maladies recherchées, il y a la drépanocytose, et bon nombre de fois, quand on annonce à des parents que leur enfant est malade, en fait, on fait une double annonce. On leur annonce que leur bébé est homozygote SS et qu'il va falloir mettre en place toute une série de mesures préventives, donc la vaccination, l'antibioprophylaxie, les consultations hospitalières régulières, etc. Mais on leur annonce aussi à eux, en tant que parents, qu'ils sont porteurs sains. Donc, il y a deux annonces qui sont faites sur le même temps. Alors que, du coup, la donne pourrait être différente si les parents avaient déjà connaissance de leur statut avant la naissance de leur enfant.
Et on va répondre aussi à la question du Youssoufa, donc il s'inquiète. Est-ce que ça se soigne, la drépanocytose? Est-ce qu'on en guérit, en fait?
Alors, en fait, pour être très schématique, donc comme je vous l'ai dit au début, hein, on est vraiment dans la transmission génétique. C'est comme quelqu'un qui a les yeux bleus, bah, il va garder les yeux bleus toute sa vie. Quelqu'un qui a les cheveux blonds, il va garder les cheveux blonds toute sa vie, sauf quand ils vont commencer à blanchir. Ou quand on a la peau noire, on garde la peau noire toute sa vie. Ça, c'est votre patrimoine, c'est votre héritage. Et votre héritage génétique, normalement, on peut pas le changer. Alors après, bien entendu, au niveau de la recherche, il y a des choses qui peuvent être proposées. Dans des cas très particuliers, on peut proposer par exemple la greffe de moelle, où on va remplacer en fait la moelle, en fait, c'est l'usine qui produit les globules rouges. Donc on va remplacer cette usine-là et on va greffer par exemple la moelle d'un frère ou d'une sœur HLA compatible avec l'enfant malade. Et donc si ce frère ou cette sœur est AA ou AS, l'enfant va se mettre à fabriquer des globules rouges AA ou AS. Mais ça, c'est dans un contexte très particulier qu'on peut proposer ça. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a deux ans maintenant, la thérapie génique. Alors, il y a très peu de cas. Hein. C'est vraiment à l'étude. On est sur quelque chose vraiment de à l'étude. Et on essaye de voir si on peut, si en modifiant le gène de l'hémoglobine, en fait, les patients qui reçoivent la thérapie génique arrive à finalement arrêter de produire l'hémoglobine S et produire en quantité suffisante une hémoglobine A génétiquement modifiée, on va dire. Mais là, on est vraiment aux prémices de la thérapie génique.
Merci beaucoup Youssoufa pour vos questions. On va enchaîner avec Béni de Dieu qui nous appelle de Kisangani en RDC. Bonjour Béni de Dieu.
Bonjour Sandrine. Bonjour docteur.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, je voulais savoir, comme vous venez de le dire, il existe des hétéronocytoses, il y a la forme homozygote et la forme hétérozygote. Alors, je voulais savoir, laquelle des deux formes est sensible au polycystisme graft-forme?
Alors, la ligne était assez dégradée, on n'a pas vraiment compris la question, mais je savais que c'était en liaison avec le palu quand même. Effectivement, quand on est drépanocytose, on a moins de chances d'attraper le palu ou pas?
Alors, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le parasite du palu, en fait, pour se développer, il a besoin d'hémoglobine A. Moi, je le compare à une voiture qui a besoin comme carburant, son essence, c'est l'hémoglobine A. Donc, dans des zones où on a beaucoup de personnes qui fabriquent de l'hémoglobine A, et donc si on s'intéresse aux enfants et aux régions où il y a une saisonnalité pour le paludisme, c'est-à-dire des saisons sèches, des saisons humides, et donc du coup beaucoup de paludisme pendant la saison humide, si on observe en fait la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, on se rend compte que la mortalité est plus élevée chez les enfants qui sont AA, c'est-à-dire qui ne sont pas porteurs sains de la drépanocytose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez des enfants, qui sont porteurs sains AS, eh ben le parasite, il va avoir un petit peu plus de mal à se développer. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire qu'ils font pas de paludisme, les porteurs sains, mais du coup, ils vont faire moins de formes sévères que les AA. Et donc, quand on regarde la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en période d'épidémie de paludisme, on se rend compte que ceux qui vont, entre guillemets, mourir le plus, c'est les enfants AA par rapport aux enfants AS. Donc, le fait d'être porteur sain, finalement, ça confère une position, c'est quelque chose de positif en fait, c'est une mutation qui est positive. Par contre, à contrario, comme je vous l'ai dit, hein, le parasite du palu, il a besoin d'hémoglobine A, donc en fait, il se développe dans les globules rouges. Donc quand on est homozygote SS, je vous ai dit, de base, déjà, on a une anémie chronique. Or, le paludisme, ça donne de l'anémie. Donc quand on a une forme SS et qu'en plus de ça, se surajoute un accès palustre, eh ben là, effectivement, on risque d'avoir plus de complications.
Pour dernière question, docteur Hassani Akate. Alors, quand on est atteint de cette maladie, quand on devient adulte, est-ce qu'il faut le dire au travail, par exemple?
Alors, moi, je suis assez favorable à ce que les patients, dans le cadre du travail, justement, aient la possibilité d'exprimer le fait qu'ils aient cette maladie chronique. Parce que ça leur permet, pour certains postes en plus, en tout cas pour la France, d'avoir une reconnaissance en tant que travailleur handicapé, ce qui permet aussi d'avoir une certaine protection sur son poste de travail. Et ça, les gens, des fois, l'ignorent un petit peu, ils n'osent pas en parler, il y a beaucoup d'absentéisme, les collègues ne savent pas pourquoi, le supérieur hiérarchique ne sait pas pourquoi. On peut vous mettre une fausse étiquette de quelqu'un qui veut pas travailler alors que vous avez une maladie chronique. Et ça, en fait, ça se fait vraiment en accord avec le médecin traitant, mais aussi le médecin du travail qui a toute sa place dans la prise en charge du patient atteint de drépanocytose.
Merci beaucoup, docteur Assa Niakate, médecin responsable du Centre d'information et de dépistage de la drépanocytose. Et je rappelle que vous êtes médecin référent drépanocytose et vaccination au sein du Bureau de la prévention et des dépistages de la ville de Paris. Merci beaucoup pour avoir parlé aussi clairement de cette maladie et d'avoir répondu à toutes les questions nombreuses. Excusez à tous les auditeurs qui n'ont pas pu passer à l'antenne, ce sera l'occasion dans une autre émission.
Priorité Santé sur RFI.
Et pour finir, on va parler de la vie qui continue grâce au don d'organes avec le professeur Olivier Bastien. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du prélèvement et de la greffe d'organes à l'Agence de la biomédecine. Vous relancez donc en ce moment une grande campagne de communication. On n'en sait pas assez que maintenant, effectivement, je voudrais commencer là-dessus, au moins en France, on est tous donneurs d'organes à notre mort, sauf si on le dit explicitement, si on le dit qu'on ne veut pas l'être.
C'est exactement ça, c'est le principe du consentement présumé. On est tous donneurs potentiels, sauf si on a exprimé son refus.
Alors, le don d'organes, on le dit et on le redit, c'est la vie en France. Combien de personnes vivent grâce à un organe greffé, par exemple?
Alors, plus de 50 000 personnes vivent actuellement avec un organe greffé fonctionnel. Donc, la France a été pionnier dans la greffe depuis le début, avant même l'ère des immunosuppresseurs modernes. Et elle continue à être un des pays leaders. On est toujours dans le peloton des trois pays qui faisons le plus de greffes à l'international.
Donc chaque année, effectivement, c'est plus de 6 000 greffes d'organes qui sont réalisés.
La barre symbolique des 6 000 greffes l'année dernière, on est à 6 105 greffes, tout organes confondus, avec en premier lieu, bien sûr, les greffes de reins, qui représentent plus de la moitié de ces greffes.
Alors, les greffes de reins, c'est sur donneur vivant, mais j'ai vu quand même les chiffres.
Décédé et vivant, il y a les deux. Les deux possibilités. Les donneurs vivants représentent 16% de l'ensemble des greffes, mais donc encore la majorité des greffes sont faites à partir de donneurs décédés.
Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'un seul donneur permet aussi de sauver plusieurs vies. Comment vous agissez?
Absolument. Un donneur peut effectivement, si... son état de santé lui permettait, s'il n'avait pas eu de maladie auparavant, bien sûr, de pouvoir donner ses deux reins, mais aussi le foie ou le cœur ou les poumons, et donc peut sauver 5 personnes après sa mort.
Et qu'est-ce qui freine encore dans le don d'organes?
Alors, ce qui freine, ce sont d'abord la méconnaissance. Méconnaissance de la loi, méconnaissance de la procédure, mélange entre une autopsie et un prélèvement, alors que le prélèvement est une activité chirurgicale dans un bloc opératoire par un chirurgien expérimenté. Et donc cette atteinte au cœur peut, pour des raisons de méconnaissance ou des raisons culturelles plus ou moins bien exprimées, faire que des personnes s'y opposent. Il n'y a aucune religion qui interdit le prélèvement d'organes. Toutes les religions monothéistes disent, si ça permet de sauver une vie, il faut le faire. Et par contre, il y a parfois des demandes en termes de rites funéraires ou de restitution du corps, mais c'est à l'hôpital de s'adapter.
Donc c'est bien de rappeler ça, effectivement, qu'une religion ne s'oppose au don d'organes. Et vous faites donc appel aujourd'hui à la solidarité de chacun pour dire que tout le monde, effectivement, est donneur potentiel d'organes et de tissus. Merci beaucoup, professeur Olivier Bastien, de votre intervention. Merci, vous êtes le directeur du prélèvement et de la greffe d'organes à l'Agence de la biomédecine. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. Merci à vous pour vos messages, vos témoignages nombreux. Et demain, on parlera eczéma. C'est une vraie maladie. Comment mieux vivre avec? On attend vos questions au 33 1 84 22 75 75 et sur Facebook. À demain, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.